Bon. Bonsoir à tout le monde et merci d'être venu. Je me présente rapidement, donc Charles Kappenstein. Pour définir un peu ce que j'ai fait, j'ai fait l'école normale d'instituteur de Metz il y a un temps certain. Après cela, j'ai été détaché pour aller faire l'université à Strasbourg parce que c'était une époque où Metz dépendait de Strasbourg. Ça a changé depuis. Et nous en discutions juste auparavant sur les vicissitudes historiques de la Moselle. Et c'est lié à ça. Et après Strasbourg, j'ai eu un poste d'assistant et de maître assistant à l'université de Reims. Et je suis venu à Poitiers en 1981 comme professeur. Et donc, bon, je me suis occupé de démarrer une équipe qui travaille sur la préparation de catalyseurs et puis les diverses applications des catalyseurs. Mais là, ce que je vais vous présenter, c'est beaucoup plus général. Ça concerne les nanomatériaux et ça a été fait au départ comme conférence pour les étudiants de master première année de chimie de l'Université de Poitiers. Et après, ça a été adapté à différents publics. Alors, j'ai essayé de l'adapter au public de ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de compréhension. Alors, ben, comme je suis à côté, je n'ai même pas besoin de ma zapette. Alors, le plan, on va d'abord essayer de répondre à quelques questions simples. Qu'est-ce que les nanomatériaux et les nano-objets? Après, comment est-ce qu'on peut les obtenir? Comment pouvons-nous les voir? Les applications, pour passer en in fine au problème de toxicité et de questions d'éthique. Alors, qu'est-ce que les nanomatériaux et les nano-objets? Alors, nanomatériaux, ça fait référence à nano. Nano, c'est nanomètre. Nanomètre, c'est là, c'est un nanomètre, un milliardième de mètre. Bon, les scientifiques utilisent une notation, il y en a qui la connaissent dans la salle, avec des exposants pour expliquer ça. Mais si on veut se rendre compte de ce que ça représente, eh bien, un kilomètre, vous pouvez vous le représenter, vous pouvez le parcourir à pied. Un millimètre, vous pouvez vous le représenter aussi. Quelle différence d'échelle il y a entre un kilomètre et un millimètre? Un facteur 10 puissance 6. Maintenant, si je passe du millimètre au nanomètre, j'ai exactement le même facteur, 10 puissance 6, c'est-à-dire un million. Dans un kilomètre, j'ai un million de millimètres. Et dans un millimètre, qu'on est encore capable de se représenter, eh bien, nous avons un million de nanomètres. Et intermédiairement, on passe au micromètre. Micromètre, c'est un millième de millimètre, et nanomètre, c'est un millième de micromètre. Simplement pour vous montrer que ces échelles, on est quand même capable de se les représenter, en longueur. Le gros problème, c'est que lorsque nous allons parler de nanoparticules, ça va être en volume. Et en volume, ben, faut remultiplier par remultiplier. Donc, de 1 mm à 1 nanomètre, j'ai 1 million. Et si je travaille en volume, ben, c'est 1 million fois 1 million fois 1 million. Et là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là que vont intervenir ces histoires de nano quelque chose. Alors, nano, c'est devenu un préfixe magique. Tous les programmes de recherche, si on n'a pas nano, hop, ça va être rejeté. Donc tout le monde va écrire nano quelque chose, nano quelque ci, dans beaucoup de programmes de recherche, y compris dans le titre déjà du programme. Et il y a beaucoup de programmes, je n'ai pas eu le temps de faire la liste, mais il y a beaucoup de programmes qui commencent par nano truc, nano chose. Alors maintenant, un exemple de molécule qui fait une taille de l'ordre de 1 nanomètre. C'est une molécule de carbone qui comporte 60 atomes de carbone. Une structure est représentée ici et puis une autre est représentée ici. Les boules noires, ce sont les atomes de carbone. Et puis on représente par des traits une partie des liaisons, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour bien montrer comment se fait cette molécule-là. Et la particularité, si on regarde ça, bah, c'est un dessin d'un ballon de football avec des octaèdres. Et puis, des hexagones et des pentagones, là. Et on s'est aperçu que ça, effectivement, avait la même structure qu'un ballon de football, et qu'il doit quand même y avoir une relation. Et on a été plus loin, on a appelé cette molécule-là le fullerène. Fullerène, pour se rappeler, un architecte qui s'appelait Buckminster Fuller, et qui a conçu les premiers dômes qui ont cette structure-là. Vous coupez ça au milieu, vous avez des dômes qui ont été construits dans différents pays, et suivant ce type de structure, parce qu'on s'est aperçu que mécaniquement, ça tient très bien. Et puis esthétiquement, c'est quand même quelque chose d'assez joli. Alors maintenant, si on fait des comparaisons, je prends une molécule de fullerène, donc le C60, et je l'agrandis à la taille d'un ballon. J'ai un certain facteur d'échelle. Je prends le ballon et je l'agrandis du même facteur d'échelle. Qu'est-ce que je vais obtenir à votre avis? La réponse est là. On obtient la planète Neptune, qui est une planète quand même beaucoup plus grande que la Terre. Donc pour vous donner une idée de ces rapports d'échelle. Alors ça, il faut toujours les avoir en tête. Et puis on va continuer. Si les atomes avaient la dimension d'une balle de golf, donc on est constitué d'atomes, un atome c'est à peu près 1 à 2 nanomètres, mais si on admet qu'on les agrandit à la taille d'une balle de golf, d'accord, eh bien, quelle taille auriez-vous? Ah, je m'aperçois que la réponse est déjà donnée là, je devais la faire apparaître par la suite. Eh bien, vous auriez une taille telle que vous pourriez toucher la Lune. Donc, voilà les facteurs d'échelle que l'on va être amené à utiliser. Alors là, j'ai le dessin correspondant. Voilà, on serait vraiment très grand. Autre comparaison, eh bien, le temps de lire cette phrase, vos ongles ont grandi de 1 nanomètre. Donc, pour vous montrer que lorsqu'on regarde à l'échelle du nanomètre, eh bien, ça va quand même très vite. Alors, des exemples de dimensions. Là, c'est un cheveu, diamètre d'un cheveu, 40 à 50 micromètres. Donc, un microscope optique permet de les observer très facilement. Les bactéries. 5 à 20 micromètres. On peut les observer aussi très facilement au microscope. Moi, je me souviens au niveau du lycée où on faisait des observations microscopiques sur les cellules. Après, on passe aux virus. Ah, les virus, c'est déjà plus petit. Là, on est dans les tailles nanométriques de 30 à 50 nanomètres pour les virus. Et puis après, on va encore aller plus petit. Les brins d'ADN, les doubles hélices. La largeur ici fait de l'ordre de 2,5 nanomètres. Par contre, la longueur peut faire plusieurs dizaines de nanomètres à ce moment-là. Et puis, on va encore plus petit, des nanotubes de carbone. Eh bien, à peu près 1 nanomètre de diamètre pour les nanotubes de carbone. Et on va encore plus petit, on arrive aux atomes. Les atomes sont plus petits qu'un nanomètre. En général, une mesure de l'ordre de 0,1 à 0,3 nanomètre, soit 1 à 3 angstroms. Et là, on voit des atomes répartis sur une surface que l'on arrive à visualiser. En réalité, c'est quand même de l'image reconstituée. Il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on fait ce type de mesure, on voit vraiment les atomes. On interprète des résultats donnés par un appareil, par un microscope électronique particulier. Alors, les nanotubes de carbone, on en entend beaucoup parler, on les développe, il y a beaucoup d'applications potentielles. Alors là, on aperçoit différents types de nanotubes. Ben, vous prenez du grillage et puis vous le refermez pour faire un cylindre. Vous avez exactement l'aspect d'un nanotube de carbone. Et suivant la façon dont on va replier les cylindres, on aura des structures différentes. Là, regardez les hexagones, comment ils sont orientés. Et regardez ici, vous avez une différence d'orientation. Là, vous avez en plus un petit décalage, comme ceci. Là, j'ai un axe transverse qui est droit, là aussi, là, il est légèrement incliné. Là, il y a d'autres types de nanotubes de carbone qui sont représentés et qui sont fermés ici. Alors, curieusement, j'ai essayé de rechercher là, j'ai d'autres exemples de nanotubes de carbone, ça devient un peu plus compliqué encore. Ça, ce sont des modèles que l'on développe pour essayer de trouver quelles sont les formes les plus stables. Alors, un des premiers modèles qui a été développé, il est esthétiquement encore plus joli. Premier modèle publié en 1969 par un certain Karelmann dans son catalogue d'objets introuvables. Alors, il les a trouvés depuis. Les nanotubes de carbone, ça date de 1991. Ça date de 1969. Comme il ne savait pas que c'était un nanotube de carbone, ce qu'il avait dessiné, un beau nanotube de carbone, il lui a donné une autre légende que je vous laisse lire. Depuis, on a fait des progrès. Alors, les propriétés maintenant. Toujours, qu'est-ce que les nanomatériaux, les nano-objets? Alors, l'or à l'échelle microscopique et macroscopique, quelles propriétés sont les mêmes? Voilà de l'or à l'échelle nanoscopique. Ce sont de toutes petites particules d'or et ma solution est colorée en rouge. Alors, les propriétés sont-elles les mêmes au point de vue de la couleur et du point de fusion? Eh bien, non. Dès qu'on atteint des propriétés nanoscopiques, des tailles nanoscopiques, excusez-moi, les propriétés sont tout à fait différentes. Et si on regarde là, bon, là, c'est la couleur. Ça dépend de la taille, ça dépend de la solution que l'on a, du solvant. Et on peut avoir des couleurs rouges, des couleurs bleues qui sont fonction de ces paramètres. Maintenant, si on regarde, point important, la température de fusion qui est indiquée ici. Température de fusion de l'or à l'état massif, c'est aux environs de 1000 degrés. D'accord ? C'est indiqué ici, 1064 degrés. Si on réduit la taille des particules, là on a 10 nanomètres, là on a 2 nanomètres, on voit que cette température de fusion s'effondre complètement. Ici on va avoir moins de 500 nanomètres pour des particules d'or moins de 500 degrés, excusez-moi, pour des particules d'or d'environ 2 nanomètres. Et ça c'est un point qui est souvent éludé, on n'en parle pas assez, à savoir que les nanoparticules, elles vont avoir des points de fusion beaucoup plus bas que le métal massif. Alors, autre point, c'est l'importance des surfaces et des interfaces. Bon, ben, tout le monde est capable d'essayer de mélanger de l'huile et de l'eau. On sait que si on agite, on va faire une émulsion. Alors là, à nouveau, dans le cas des lipides, c'est l'huile. On va avoir une tête polaire, ici, qui va aimer l'eau, et puis une queue non polaire qui va plutôt aimer l'huile. Alors, on peut avoir, avec ce type de système, mais là, je ne comprends pas, on ne voit pas très bien. Moi, je le vois mieux sur mon écran. Il y a des problèmes au niveau de la... Oui, il y a des liens ici. Ici, on voit les têtes polaires, mais on ne voit pas les queues non polaires qui s'assemblent pour former ce qu'on appelle des micelles. Mais lorsque vous faites votre vaisselle, vous faites des nanoparticules. Bon, c'est pas la peine. Imaginez les têtes qui sont là. Ce que j'ai ici, c'est ces zigzags qui vont toutes vers le milieu. Les zigzags s'assemblent entre eux, les parties non polaires. Alors là, j'ai une micelle de forme sphérique, taille de quelques dizaines de nanomètres. Et à l'intérieur, vous allez rassembler tout ce qui aime bien être avec les parties non polaires, c'est-à-dire les graisses. Et c'est comme ça que vous allez faire votre vaisselle ou que vous allez faire du nettoyage. Et puis alors là, je peux avoir des bicouches avec les parties non polaires, les zigzags, qui vont vers le bas ici et vers le haut à partir de ces parties polaires ici. Alors là, j'ai différents types de structures qui sont typiquement des structures de nano-objets. Mais ça, c'est connu depuis 100 ans. Ce n'est pas une nouveauté à ce niveau-là. Simplement, on les classifie dans les nano-objets à l'heure actuelle. Alors, autre problème concernant l'importance des surfaces et des interfaces, eh bien, ce sont, par exemple, les neurones récepteurs des odeurs. Les odeurs que l'on va percevoir, ça arrive au niveau du nez, au niveau de l'odorat, et on est capable de différencier différents types d'odeurs parce que pour chaque odeur, on va avoir des molécules spécifiques. Et les récepteurs, ce sont des protéines, vont être capables d'ajuster une molécule spécifique à un endroit bien donné et de transmettre l'information « Ah, j'ai ressenti » ou « Je sens telle odeur ». Donc là, on est aussi typiquement dans le domaine de ce qui se passe au niveau du nanomètre. Alors, importance des surfaces et des interfaces, c'est les seules équations que j'ai dans ma présentation. Alors, c'est l'énergie de surface et la thermodynamique des surfaces. J'avais prévu de faire une petite expérience. Malheureusement, je l'ai cassée il y a une heure. C'était un tube en verre et je gonfle deux ballons. Deux ballons identiques, de façon à avoir des volumes inégaux. Et j'ai un robinet entre les deux. J'ai un ballon qui est bien gonflé, un ballon qui est peu gonflé. Et lorsque j'établis j'ouvre le circuit entre les deux ballons, le tube entre les deux ballons, que va-t-il se passer? Eh bien, j'ai posé la question, je crois, à des dizaines de personnes. Elles me disent, le gros ballon va se dégonfler, le petit ballon va se gonfler. Et c'est l'inverse qui se passe. Le petit ballon se dégonfle et le gros ballon se gonfle encore plus. Et c'est une expérience que vous avez déjà vue lorsque vous faites des bulles de savon. Vous voyez que les petites bulles ont tendance à disparaître et à se fondre dans les grosses bulles. C'est une question à nouveau de surface. Et le système, pour atteindre un état d'équilibre, va essayer de minimiser sa surface, c'est-à-dire de la diminuer. Et pour la diminuer, ben, on va faire disparaître ou diminuer les petits ballons, les petites sphères, et faire grossir les grosses sphères. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important si vous diminuez la taille des sphères. Alors, ça fait appel à la tension de surface, ça fait appel à ce qu'on appelle l'angle de mouillage. Ça, vous pouvez faire l'expérience chez vous, ce n'est pas difficile. Vous déposez une goutte d'eau sur différentes surfaces et vous regardez l'aspect de cette goutte d'eau-là. Sur une surface hydrophile, vous aurez un aspect de ce type-là, avec un angle de 20, 30, 40 degrés à peu près. Et sur une surface hydrophobe, mauvais mouillage, vous aurez un angle supérieur à 90 degrés. Et si vous êtes sur une surface super hydrophobe, vous aurez un angle supérieur à 140 degrés et vous avez des sphères quasiment parfaites. Alors si on veut des sphères parfaites, si on ne veut pas être gêné par les forces de gravitation, à ce moment-là, il faut que les gouttes soient suffisamment petites, grosso modo de 2 mm au maximum. Et là, vous avez des sphères parfaites. Et il y a une expérience qui est présentée ici, c'est l'effet Lotus, où on fait rouler ces sphères-là sur des surfaces super hydrophobes. Et à Poitiers, j'avais invité un collègue indien qui est l'un des spécialistes internationaux des surfaces superhydrophobes, le professeur Rao, et qui a fait une conférence à La Rochelle au mois de décembre sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'applications pour tout ce qui est surface superhydrophobe. Alors, ces surfaces-là, on les crée en regardant la structure au niveau nanométrique à nouveau et en la transformant. Alors, c'est ça l'expérience avec les ballons, c'est ce que j'avais précisé, en fonction du rayon de courbure. Alors, importance des surfaces et des interfaces, maintenant, là, les phénomènes d'adsorption sur une surface, et ne pas confondre absorption et adsorption. Ça, je le projette régulièrement, parce que les étudiants, très souvent, font la confusion entre les deux. Le phénomène d'absorption avec un B est indiqué ici, et le phénomène d'adsorption, qui est un phénomène de surface, est indiqué ici. Et on peut faire, effectivement, des super-adsorbants. Alors, pour faire des super-adsorbants, je vais pouvoir vous le montrer. J'ai une petite vidéo qui montre un super adsorbant. Alors, où est... Voilà. Je la prépare. Alors, elle a un défaut, c'est qu'elle est sonorisée en anglais. Donc, on met un super adsorbant, c'est un polymère d'acrylate, et on forme tout de suite un gel en ajoutant de l'eau. Vous avez vu qu'il y avait très peu de poudre et beaucoup d'eau. C'est le principe. Bon, ça c'est encore pour d'autres propriétés, mais on a formé un super adsorbant en créant un gel, et un gel est toujours au niveau nanométrique. Alors, c'est le principe même des couches pour bébé. Si vous avez des couches pour bébé, vous les démontez, vous refaites l'expérience chez vous. Donc ça, ce n'est pas très difficile à réaliser. Je vais revenir à la présentation. Voilà. Voilà, j'en étais là. Alors, en résumé, si on regarde les nanomatériaux, on les classe en trois grandes familles, les nano-objets, nanoparticules, nanofibres, nanotubes, qu'on peut qualifier de dimension zéro, les matériaux nanostructurés en surface, multicouches, c'est ce qu'on a une représentation ici, ou revêtements nanostructurés, type 2, ou type 3 en volume. Donc, suivant la dimension de ces matériaux, de ces nanomatériaux, on a plusieurs catégories. Alors, il y a la définition d'un nanomatériau, d'une nanoparticule, d'un nano-objet. Alors, en général, on la définit en disant que c'est un nano-objet dont une des dimensions, au moins, fait entre 1 et 100 nanomètres. Mais c'est une définition qui est très large. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite au niveau des questions de toxicité. Lorsqu'on va aborder les problèmes des nanomatériaux, il y a beaucoup de progrès à faire pour définir ce que c'est réellement un nanomatériau ou une nanoparticule. Parce qu'on va avoir une diversité trop grande de ces matériaux-là pour les englober dans une seule définition. Alors, les nanoparticules, donc on peut avoir des particules lamellaires. Alors, l'argile est un des nanomatériaux les plus étudiés. Il y a une exposition ici, je n'ai pas encore eu le temps de la visiter, mais j'espère bien la visiter très rapidement. Et puis, il y a les nanoparticules sphériques, des sphères pleines ou des sphères creuses. J'aurais pu vous apporter une boîte que j'ai, par exemple, d'un litre avec de l'alumine nano sous forme de nanosphère, ou bien de la silice sous forme de nanosphère. Vous avez une boîte de 1 litre, et vous avez l'impression qu'elle est vide alors qu'elle est pleine. 1 litre pèse moins de 50 grammes. Et on a des nanoparticules à l'intérieur. Mais normalement, je n'ai plus le droit, par exemple, d'ouvrir ce type de boîte devant vous. Il faudrait que tout le monde ait un masque anti-nanoparticules pour respecter les règles de sécurité actuelles. Alors là, il y a différents exemples de ces nanoparticules, des nanotubes, des nanofibres, nanotubes de carbone, d'argile. On est capable d'en construire de différents types. Alors, deuxième point, comment les obtenir, ces nanomatériaux, ces nanoparticules? Alors, c'est là qu'on va avoir deux grandes approches. Soit on part d'une particule normale, qu'on voit de l'ordre du millimètre, et puis on va essayer de la réduire. La méthode la plus simple pour la réduire, c'est de la broyer. On prend un mortier, un pilon, et puis on broie. Ça, on peut le faire dans sa cuisine, on peut prendre du sel et essayer de le broyer. Si on s'applique consciencieusement, en le faisant à la main, on arrivera à descendre à quelques micromètres. Mais c'est long. On peut y arriver. Si on veut arriver plus loin, descendre en dessous du micromètre, c'est possible, mais alors à ce moment-là, il faut avoir des appareils industriels qui puissent le faire. Et donc, on va faire du broyage en grande quantité. On aura des particules de toutes les tailles. À ce moment-là, ça va être très difficile d'obtenir un ensemble de particules homogènes de la même taille et avec la même forme. Donc, ça posera quand même des problèmes si on veut les utiliser par la suite. Alors, ça, c'est le broyage. Des exemples sont donnés ici. Un cube de 1 mm de côté conduit à 1 milliard de cubes de 1 micromètre de côté et à... Alors ça fait combien de milliards de milliards de milliards? Ça fait 1 milliard de milliards de milliards de cubes de 1 nanomètre de côté. Alors, ça, je dis aux étudiants, vous prenez un grain de sel de 1 mm de côté, ça fait à peu près 1 mg, 2 mg pour être précis. Vous le broyez consciencieusement dans un mortier, vous allez, faut bien faire ça pendant une bonne heure, vous allez atteindre quasiment le milliard de petites particules. Et on n'est pas dans le domaine nanométrique, on est dans le domaine micrométrique encore, pour vous montrer les échelles que l'on a à ce niveau-là. Alors, un autre point, lorsqu'on utilise cette approche descendante, en anglais ça s'appelle top-down, c'est qu'à partir du micromètre et en dessous, il y a l'influence de l'agitation thermique qui va commencer à intervenir, et intervenir de plus en plus fortement au fur et à mesure qu'on descend là-dedans. Et lorsque je viens de lire un certain nombre de documents concernant toutes les critiques faites aux nanomatériaux, ben ça, c'est un aspect qui n'est quasiment jamais évoqué. À savoir que si on veut les utiliser, il va falloir contrecarrer cette agitation thermique. Alors, il y a l'autre approche ascendante, très utilisée par les chimistes. Je pars d'une solution de molécules, et puis je vais créer, à ce moment-là, des nanoparticules. Alors, un exemple facile à faire, c'est une combustion incomplète. Je forme des suies, et les suies contiennent des fullerènes. Maintenant, lorsque vous suivez un camion qui... à un moteur diesel mal réglé, il y a une bonne suie derrière, dites-vous bien que dedans, il y a des fullerènes et dedans, il y a des nanotubes de carbone, en plus de toutes les autres particules. Donc, vous en produisez en permanence, et là aussi, ça pose un autre problème pour tous ceux qui sont contre les nanomatériaux. Comment faire pour éviter d'avoir des nanomatériaux dus aux différents types de combustion? C'est le même problème si vous utilisez du charbon de bois pour faire un barbecue. C'est bien agréable, mais si vous regardez dans la poche de votre charbon de bois, il y a de la poudre dans le fond. Et de quoi est constituée cette poudre? De particules micrométriques, mais aussi de particules qui sont en dessous, qui sont simplement agglomérées. Alors, autre possibilité, c'est la décomposition catalytique. On va obtenir des nanotubes de carbone. On part à nouveau deux molécules bien identifiées et on construit un objet à ce moment-là. Décomposition au chalumeau, on part d'autres types de molécules et on va obtenir des nanoparticules d'alumine, des nanoparticules de silice, des nanoparticules d'oxyde de titane qui sont utilisées industriellement. La synthèse chimique aussi va, elle, permettre de créer ce qu'on appelle des machines moléculaires. Alors là aussi, j'ai une vidéo. Voilà.
Le développement des machines moléculaires, initié par Vincenzo Balzani, est une voie de recherche en plein essor. Jean-Pierre Sauvage nous invite à en découvrir quelques aspects. Au fond, y aurait-il une approche philosophique dans la démarche scientifique du chimiste ?
Ah, la philosophie du moléculariste, disons, je peux en parler en ce qui concerne notre labo. Hein, bien sûr, c'est très très large. Les sciences moléculaires sont extrêmement variées. Mais en ce qui concerne les activités de notre équipe, disons qu'il y a une sorte de philosophie très générale qui nous pousse, qui est de fabriquer des molécules, un aspect essentiel de la chimie. C'est vraiment le cœur de la chimie. Et fabriquer des molécules pour le pari scientifique que ça représente, donc la grande difficulté à fabriquer un objet moléculaire. Et dans notre cas, les molécules que l'on fabrique ont en même temps des propriétés topologiques. Donc la topologie, c'est la science des objets que l'on peut déformer autant que l'on veut, à condition de ne pas rompre de lien. Alors, par exemple, ici, j'ai un objet qui est constitué de 4 sommets et de 4 arêtes. Donc, ça va être un trapèze. Si je déforme cet objet, je ne vais pas changer ses propriétés topologiques. Et, par exemple, je vais redessiner ce même objet, comme ceci, avec 4 sommets, 4 points et 4 arêtes, dont une va être tordue. Mais ces deux objets vont être strictement identiques. Alors, la topologie des molécules, en général, elle est banale, elle est triviale. C'est-à-dire qu'on peut dessiner les molécules sur un plan, hein, sur un tableau, dans un espace bidimensionnel, sans qu'il n'y ait de croisement. Mais il y a quelques molécules, très rares, qui sont topologiquement beaucoup plus intéressantes. Et le prototype, ou l'archétype même, c'est le caténane, qui vient du latin, qui veut dire chaîne, et un caténane, c'est constitué de deux anneaux entrelacés. Ça, c'est l'objet le plus simple. Un autre objet topologiquement intéressant, c'est un nœud. Donc ici, on a un exemple d'un nœud de trèfle. Le nœud le plus simple, non trivial, et ces objets représentent des paris de synthèse pour un chimiste. Maintenant, on va s'intéresser à un domaine qui est de la dynamique moléculaire et notamment de la mise en mouvement contrôlée. Et ça nous emmène directement vers le domaine des machines et des moteurs moléculaires. Ça, c'est un gros axe de recherche. Et pour le chimiste, là encore, il y a un pari de synthèse. Est-ce que le chimiste va être capable de fabriquer des objets moléculaires complètement artificiels, créés en laboratoire, dont le comportement rappelle celui de la biologie?
Imiter les mouvements naturels qui existent au sein des cellules devient l'objectif essentiel des chimistes.
Ça se replie.
Après, je veux dire, les changements.
Je cherche comment du
charbon. L'un des projets phares que nous avons démarré il y a 3 ans environ, c'est celui qui consiste à élaborer une presse moléculaire. C'est une molécule très complexe avec des tas de constituants qui sera capable d'interagir avec d'autres molécules, donc de les reconnaître, de les comprimer et ensuite de les relâcher en solution. Alors il y a un intérêt fort qui est celui de mimer les chaperons. Alors, les chaperons, en biologie, sont des très très grosses protéines dont la fonction principale est de remettre en forme des protéines qui ont un petit peu déviés de leur comportement normal, de leur comportement habituel, et notamment qui se sont relâchés, qui ont perdu leur forme, leur conformation active, donc celle qui permet vraiment qu'elles remplissent leur fonction. Et ces chaperons font un petit peu ce que je disais pour les presses, emprisonnent ces protéines, les compriment et les relâchent ensuite pour les renvoyer à leur travail une fois qu'elles ont été remises en forme.
On peut imaginer qu'un jour, des machines et des moteurs moléculaires feront le tri ou le transport de molécules pour des applications pharmaceutiques. Ou encore, que d'autres serviront à stocker et à transporter l'information dans des dispositifs d'un nouveau genre. Toutes ces molécules imaginées dans les laboratoires révèlent une véritable dimension esthétique. C'est certainement pour les chimistes une motivation supplémentaire face aux défis de la science.
Voilà, je reprends. Alors, nous avons vu un exemple de synthèse chimique. Je dois ajouter que je connais bien Jean-Pierre Sauvage, nous étions étudiants ensemble à Strasbourg. Alors, comment voir ces nanomatériaux, ces nano-objets, ces nanoparticules? Alors, les techniques utilisées sont les techniques de microscopie. Tout d'abord, on a démarré avec la microscopie optique, mais qui, elle, est limitée au micromètre. Alors là, vous voyez un exemple de globules rouges, on est dans les tailles 6-10 micromètres, exemple de bactéries, ou exemple d'un cheveu, ici, photographié sur un CD. Donc on voit ici l'information codée sur le CD. Pour le cheveu, on a une dimension de l'ordre de 50 à 60 micromètres de diamètre. Et au niveau du CD, on est au niveau du micromètre. Excusez-moi. Microscopie électronique. Alors, la microscopie électronique permet d'aller beaucoup plus loin et de voir les atomes. Alors là, ce sont de voir les atomes, de voir les particules en premier avant de voir les atomes. Là, ce sont des particules de deux éléments, le cadmium et le sélénium, ce qu'on appelle des points quantiques, je ne vais pas insister là-dessus, mais on voit des petites particules. Alors là, vous avez la dimension, on va comparer 25 nanomètres, et là, vous voyez les petites particules. En agrandi, on voit une particule qui va faire à peu près 5 nanomètres de diamètre. Alors ça, c'est un autre exemple concernant, ça c'est des travaux que nous avons réalisés à Poitiers, des petites particules d'iridium déposées sur de l'alumine. C'est un catalyseur qui sert dans la propulsion pour décomposer de l'hydrazine, et on voit ici, vous voyez l'échelle, 2 nanomètres encore, et on a des particules qui font de l'ordre de 2 nanomètres, et on voit bien les surfaces de ces particules, comment elles sont facettées. Donc on est capable de voir ça avec de la microscopie électronique classique. On peut aller plus loin et utiliser des microscopies moins classiques qu'on appelle microscopie à sonde locale. Et pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien, on va prendre des petits aimants qu'on utilise, qu'on met sur les réfrigérateurs, qui sont là. Et il y a, là, vous allez pouvoir faire l'expérience. J'en ai deux. Vous avez l'aimant et puis vous avez une petite sonde. Et vous allez essayer de caractériser ce petit aimant en passant la sonde dans une direction et en passant la sonde dans l'autre direction. Et vous pouvez les faire circuler. Alors c'est le principe des microscopies à sonde locale pour faire ce type d'expérience. Alors est-ce qu'on a une différence lorsqu'on passe dans une direction et dans l'autre direction ? Il y a une différence. Alors, à ce moment-là, j'essaye de trouver un modèle qui représente le mieux mon aimant. Vous avez 3 modèles ici. Quel modèle allez-vous choisir ? Alors, modèle A, on n'aurait pas de différence, quelle que soit la direction.
Modèle B, on va avoir des différences si on balaye de manière horizontale ou verticale. Et modèle C, ben à nouveau, on ne devrait pas avoir de différence suivant les directions. Et visiblement, c'est le modèle B qui donne la structure de l'aimant. Eh bien, avec ce type de microscopie, on va faire la même chose. Donc, on pouvait, à la limite, inventer cette microscopie-là en regardant d'un peu plus près comment on pouvait caractériser un petit aimant. Alors, on a aussi la microscopie à effet tunnel. On va passer une pointe qui se déplace à la surface et qui va essayer de caractériser, très souvent en regardant le courant électrique que l'on peut faire passer, qui est très très faible, mais que l'on est capable de mesurer, on va pouvoir caractériser cette surface et voir où il y a des atomes. Et là, il y a deux exemples. Là, ce sont des atomes de silicium, déposés sur du cuivre. Là, on voit bien les atomes de silicium qui sont déposés suivant des rangées. Et puis là, ce sont quelques atomes de plomb déposés à nouveau sur une surface de cuivre. Et on est capable, au niveau atomique, d'avoir une information concernant la localisation de ces atomes. Alors, microscopie à sonde locale, on va aller plus loin et on va essayer maintenant de déplacer les atomes à la surface avec cette sonde-là. On peut faire ça avec les petits aimants. Là, je n'ai pas l'expérience, mais vous pouvez la faire chez vous si vous acceptez d'en découper un en petits morceaux. Et vous allez pouvoir déplacer avec cette sonde-là, déplacer les petits morceaux. Et on va faire ça avec des atomes. C'est exactement le même principe. On va essayer d'assembler les atomes et on va partir de la vue précédente qui est reproduite ici. On assemble les atomes et on arrive à faire un cercle avec des atomes. Alors, ce sont des atomes de fer qui sont déposés sur du cuivre. Et lorsque le cercle est fermé, on aperçoit des ondes ici, comme à la surface de l'eau. Alors là, ce sont des effets quantiques que l'on peut, que les physiciens peuvent traiter et essayer de comprendre. Alors, on a utiliser cette microscopie-là aussi pour écrire différentes indications. La première qui a été écrite, c'est dans les années 90, c'était IBM. C'est devenu un classique. Et là, ce sont simplement des caractères chinois qui signifient atome. Là, c'est marqué caractère japonais. Lorsque je l'ai présenté en Chine, on m'a tout de suite fait remarquer que ce n'était pas du tout des caractères japonais, mais que c'était bien des caractères chinois. Donc, une différence. Alors, une chose qu'il faut savoir, lorsqu'on manipule des atomes, il faut contrecarrer l'agitation thermique. Donc, ces manipulations-là vont être faites à très très basse température. Vous ne pouvez pas les faire à température ordinaire, ce n'est pas possible, du fait de l'agitation thermique. Ça va contrecarrer sans arrêt l'assemblage que vous essayez de faire. Alors, nous passons aux applications. Alors, exemple, les nanoparticules d'or sont utilisées en catalyse depuis peu. On s'est aperçu que l'or massif ne présente pas de propriétés catalytiques, mais dès qu'on arrive à faire des petites particules de quelques nanomètres, on aura des propriétés catalytiques. Deuxièmement, l'or est utilisé en médecine, de même que l'argent, mais ça c'est depuis très longtemps dans la médecine indienne. La médecine, on s'apporte un nom particulier, je ne l'ai plus en tête, ayurvédique. Donc, ils préparaient des petites particules dans des solutions de stabilisants et les patients buvaient ces solutions contenant des nanoparticules d'or et des nanoparticules d'argent. Et à un moment donné, j'étais en contact avec un Indien, on avait essayé de faire une proposition dans le cadre de la coopération franco-indienne pour pouvoir soutenir un travail sur ces nanoparticules servant à la médecine indienne. Bon, sur le coup, la première version n'avait pas été retenue et on n'a pas eu le temps de refaire une deuxième version de cette proposition-là. Alors là, nanoparticules d'or, on avait déjà vu des nanoparticules qui ont une couleur rouge. On change simplement l'espace entre les particules en changeant de solvant, en ajoutant des chlorures et on obtient une coloration bleue. Donc là, on a à nouveau un autre tube avec des nanoparticules. Alors maintenant, des nanoparticules qui sont magnétiques. Ça va être des nanoparticules de magnétite. C'est un oxyde de fer. Si on arrive à réduire ces nanoparticules à un stade, nano, on va avoir des propriétés assez spectaculaires qui font l'objet des ferrofluides. Et là aussi, j'ai une autre vidéo à vous montrer sur ces ferrofluides.
sound ferro fluid is contained in a petri dish. When a strong is brought underneath, ferro fluid spikes are observed along magnetic field lines.
Alors, on a, je vais le répéter, mais je vais enlever le son, ce sera plus facile. On a un ferrofluide dans un solvant et on met un aimant par-dessous. Et vous voyez qu'il y a des structures très particulières qui se développent liées justement à l'aspect nanoparticulaire de ces tout petits aimants qui sont dans le fluide. Alors je dois en avoir un deuxième. Voilà, on refait la même expérience en mettant un aimant par-dessous. Alors, quel va être l'intérêt de ces ferrofluides-là ? L'intérêt, ça va être de pouvoir confiner le fluide et de montrer que si on essaye de le renverser, de le faire couler, on n'arrivera plus à le faire couler tant qu'on a cet effet de l'aimant. Alors, ça a été utilisé. Voilà, là, vous avez la structure particulière de ces petits pics qui se forment. Et vous voyez que ça forme comme une gelée. Et on n'arrive plus à le faire couler. Alors ça a été développé lors des premiers départs dans l'espace par les Américains pour essayer de confiner les fluides dans la station spatiale maintenant, mais lors des premiers tours dans l'espace. Parce qu'un fluide, lorsqu'on n'a plus de gravité, ben ça va former des petites sphères, et si ça se disperse, vous allez être entouré de petites gouttelettes de fluide qui se déplacent dans tous les sens. Alors ça vous donne quelques exemples de ces ferrofluides. Alors, magnétisme et ferrofluide, application médicale maintenant de ces petits aimants. Là, on a toujours un aimant d'oxyde de fer ici. Il est recouvert d'or et sur l'or, on va greffer des molécules spécifiques, des molécules à propriété pharmacologique, ce que je mets ici des médicaments spécifiques qui sont notés là. Et avec un champ magnétique, on va pouvoir orienter ces agrégats sur la cible, par exemple, des cellules cancéreuses. Et on essaye d'utiliser ce type de procédé dans le cadre de la chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle, de manière très générale, la vectorisation des médicaments. C'est-à-dire en mettre très peu et les mettre à l'endroit où il faut. Donc ça, c'est un développement possible pour ces nanoparticules. Alors après, nanoparticules dans le cadre des semi-conducteurs, alors là on reprend le composé de cadmium et de sélénium et on voit qu'on peut avoir des colorations différentes suivant la taille de ces nanoparticules. Elles sont indiquées ici. Là on reproduit une figure que nous avions déjà vue. Alors les nanotubes de carbone, alors ça c'est quelque chose qui a pris un développement très important ces dernières années parce que plusieurs usines se sont créées. Une des plus importantes en Europe, il y en a une en France, c'est Arkema. Une autre se trouve en Belgique pour fabriquer des nanotubes. Alors, comment fait-on un nanotube ? On va utiliser un catalyseur, c'est du nickel, il est représenté ici. Et puis, on va utiliser un hydrocarbure, des vapeurs d'hydrocarbures. On va les faire arriver sur le catalyseur à haute température. Ces hydrocarbures vont se décomposer. Le carbone va se fixer sur la petite particule de catalyseur ici et va se lier aux atomes de carbone qui s'étaient déjà précédemment fixés. Et je vais faire grossir un nanotube. Alors, au fur et à mesure que le nanotube grossit, le catalyseur se déplace. Alors, le nanotube plutôt grandit ici, et là, vous avez un exemple de nanoparticules de nickel, vous les avez là, au sommet de chaque nanotube. Alors, regardez l'échelle, là, vous avez un micromètre, et si je regarde le diamètre ici, des plus petits nanotubes, j'ai à peu près un cinquième à un huitième de micromètre, c'est-à-dire que je suis de l'ordre de 100 à 300 nanomètres pour ces nanotubes de carbone. Alors, application des nanomatériaux. Alors, des applications très futuristes, on en trouve beaucoup. Ça, c'est une application qui est parue dans American Scientist, de faire un ascenseur spatial. Qu'est-ce que ça veut dire, un ascenseur spatial? Eh bien, d'imaginer un système géostationnaire, donc à 36 000 km, je suis au-dessus d'un point fixe de la Terre, ça tourne, et je construis une échelle qui va du bas jusqu'à ce satellite à 36 000 km. Et sur cette échelle-là, je peux imaginer un ascenseur pour y monter. Alors là, on est dans le domaine futuriste, on essaye de regarder quelles sont les conditions pour pouvoir y arriver. Alors là, il y a des conditions au point de vue densité du matériau, densité de l'acier, du Kevlar et des nanotubes de carbone. Et là, la résistance mécanique qui est demandée pour construire ces nanotubes, compte tenu de la densité. Ça, c'est ce qui est demandé pour construire l'échelle pour aller dans l'espace, dans le cas de l'acier. Et ça, c'est le niveau actuel de l'acier. Donc, vous voyez que je ne pourrais pas le faire. Avec le Kevlar, je ne pourrais pas le faire. Mais si on regarde les nanotubes de carbone, les caractéristiques actuelles montrent qu'on a les bonnes performances pour construire cet élévateur spatial. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, les nanotubes les plus longs que l'on ait obtenus font environ 1 cm, et il faut aller quand même beaucoup plus loin que 1 cm, c'est-à-dire monter à 36 000 km. Tout ça pour vous dire qu'on est quand même dans la science-fiction. D'autant plus que lorsqu'on développe des nanotubes, plus ils sont grands, plus ils vont avoir des défauts qui vont augmenter aussi avec la longueur. Alors, on peut aussi essayer de filer des nanotubes de carbone, de faire des fils, de faire des brins avec ça. Là, c'est plus intéressant, on va pouvoir faire à la limite des cordes extrêmement résistantes et très peu denses, c'est-à-dire qu'ils vont présenter un poids très faible. On peut faire aussi des feuilles de nanotubes de carbone. Des exemples de tissage sont donnés ici. Donc, on peut faire du tissage avec ces nanotubes. On peut faire, là aussi, on a d'autres propriétés de feuilles, excusez-moi, elles sont en anglais ici. Donc, on appelle ça des nanotubes à parois multiples, ça c'est l'acronyme MWNT qui vient du nom anglais de cet acronyme-là. Et puis on regarde les propriétés de surface de ces feuilles de nanotubes de carbone, notamment les propriétés hydrophiles, hydrophobes. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut déposer des objets, enfin des liquides relativement denses, alors que la feuille elle-même est à un poids très très faible. Donc elle peut supporter un poids beaucoup plus important que la feuille elle-même par rapport aux feuilles classiques en polymère, en téflon, si on veut regarder des surfaces hydrophobes. Alors, on peut utiliser ces nanotubes aussi contre le cancer. Alors là, on va regarder certaines propriétés en fonction de la concentration de la solution. Là, c'est la concentration donnée en milligrammes par litre. Et là, c'est l'absorbance. Alors, dans les nanotubes, on va y associer... On va les fonctionnaliser à nouveau avec des vecteurs actifs contre des molécules cancéreuses. Mais ça, je ne pense pas que ça ait été tellement développé parce qu'on sait que ces nanotubes présentent d'autres problèmes de toxicité. Il faut être sûr d'atteindre les bonnes cellules à neutraliser avec ce type de médicament. Alors, d'autres applications, alors ça c'est l'oxyde de titane et les fenêtres auto-nettoyantes. Alors, on va utiliser des fenêtres auto-nettoyantes, c'est bien pratique. Elles sont recouvertes d'oxyde de titane, ça absorbe l'ultraviolet. Et s'il y a des résidus organiques qui sont dessus, ils vont être détruits par le rayonnement ultraviolet qui apporte l'énergie. Et l'oxyde de titane va pouvoir transformer cette énergie pour oxyder ces particules à l'air. Alors, en plus, on a des surfaces qui sont hydrophobes ou super hydrophobes. Lorsqu'il pleut, les gouttes tombent automatiquement. Il y a aussi une expérience qui est montrée là-dessus, lors de l'exposition. C'est ce qu'on appelle les surfaces auto-nettoyantes. Et ça, vous pouvez le voir lorsque vous vous promenez dans la nature. Il n'y a pas que les feuilles de lotus qui ont cette propriété-là. Alors ça, c'est les feuilles de lotus où on voit très bien, on a une surface nanostructurée et les gouttes d'eau, hein, qui forment de véritables petites perles, roulent très facilement. Et on va mesurer à partir de quel angle d'inclinaison ça roule. Et c'est au bout de quelques degrés seulement que ça se met à rouler. Alors, on fait des pantalons, par exemple, des pantalons qui ne se tachent pas. À la fois, ça va être super hydrophobe et super oléophobe, c'est-à-dire que ça va repousser tout ce qui est huile, tout ce qui est corps gras. Donc ça, c'est génial. On aura un pantalon qu'on va pouvoir utiliser bien plus longtemps avant de l'apporter pour le, au nettoyage. Alors, conclusion, on arrive aux questions de toxicité et de, d'éthique. Alors, les nanoparticules sont-elles toxiques ? Vous ne pourrez jamais démontrer qu'une nanoparticule, comme toute espèce chimique, n'est pas toxique. Ça, ce n'est pas possible à démontrer. Donc, il faut regarder de beaucoup plus près et quelle est la toxicité des différentes molécules, nanoparticules, matériaux que l'on met sur le marché pour pouvoir décider si on doit prendre des précautions particulières ou pas. Et là, ça demande beaucoup de recherches et les reproches qui sont faits à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas assez investi dans la toxicité de ces nanomatériaux de manière générale. Alors, un exemple bien connu, c'est l'amiante. Là, vous avez des fibres d'amiante, en voilà ici, en voilà d'autres, fibres d'amiante, ça, c'est le minéral qui contient l'amiante, voilà les fibres d'amiante, voilà vu en microscopie électronique, ça fait 30 micromètres, et les fibres, au point de vue des diamètres, ont des diamètres nettement inférieurs aux micromètres. Donc on rentre dans le cadre des nanoparticules, mais on a des fibres qui sont très longues, et on sait que ça, c'est extrêmement toxique. C'est un matériau naturel. Donc, j'ai une discussion concernant l'éthique sur la vidéo. Je peux vous la montrer, mais je préférerais qu'on termine d'abord la conférence et qu'on passe à la discussion avant de vous montrer cette petite vidéo. Alors là, j'ai vu que l'affiche est ici. Je la reproduisais pour inviter tous ceux qui n'ont pas vu l'exposition ici à aller la voir. Je vous remercie bien.
À demander à M. Kapelstein, il faut en profiter, parce que c'est vrai que les nanoparticules, nanomatériaux, c'est, on en parle, mais voilà. Je vais vers vous, parce qu'on enregistre la conférence, donc je vous demanderai de bien vouloir utiliser le micro.
Juste par curiosité, vous parliez d'agitation thermique, à peu près à quelle température, parce que vous parliez de température basse,
oui.
Il fallait, c'est dans, de l'ordre de quelle température ?
De mémoire, il me semble qu'on travaille dans l'hélium liquide pour faire ces manipulations de déplacement d'atomes. Il faut la température la plus basse possible.
D'accord.
Bon, peut-être qu'à 10 Kelvin ou 20 Kelvin, c'est possible. On ne pourra le faire qu'à très basse température.
D'accord. Merci.
À la température de l'azote liquide, à mon avis, l'agitation thermique est déjà trop forte pour pouvoir faire ce type de manipulation. Donc, lorsqu'on dit que l'on va créer des objets en déplaçant des atomes, atome par atome, théoriquement, c'est possible, mais pratiquement, ce n'est pas possible d'industrialiser ce type de réalisation. C'est une performance de laboratoire. À mon avis, aucun industriel va se lancer là-dedans.
Merci.
Oui.
C'est des fibres recouvertes de nano ou alors c'est de la fibre entièrement de nano ?
C'est le traitement de surface où on va avoir ce qu'on appelle les surfaces nanostructurées pour la rendre super hydrophobe et super oléophobe à la fois. Je sais comment on rend des surfaces super hydrophobes. J'ai le collègue indien qui s'occupe maintenant des surfaces super oléophobes parce que le marché potentiel est plus important que les surfaces super hydrophobes. C'est un des premiers à avoir travaillé sur ces traitements de surface et notamment sur de la silice qu'il transforme pour la rendre super hydrophobe. Il était venu à Poitiers à l'université en 2005 et on avait fait une petite recherche sur, en utilisant comme mot-clé super hydrophobicité, et on avait trouvé à peu près une trentaine d'articles, dont une vingtaine venait de son équipe. Il est venu au mois de novembre l'an passé, on a refait cette même recherche, et on a trouvé plus de 600 ou 700 références. C'est-à-dire entre 2005 et 2010, ça, c'est un domaine qui explose actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'applications à pouvoir rendre de manière peu coûteuse des surfaces, à pouvoir contrôler l'hydrophobicité ou l'hydrophilicité d'une surface, c'est-à-dire certaines surfaces les rendre super hydrophiles, la molécule d'eau va s'étaler très facilement, et d'autres super hydrophobes. Alors, il y a quand même un monsieur qui a développé ça, c'est un certain monsieur Gore, je ne sais plus quel est son prénom, mais vous connaissez tous, la firme Gore-Tex. Donc, on va avoir des vêtements qui vont laisser passer la vapeur d'eau très facilement, si vous transpirez à l'intérieur, mais qui vont être super hydrophobes pour l'eau de pluie qui va venir de l'extérieur. Et donc, ne pourra pas suivre le chemin inverse. Alors que, jusqu'à présent, les vêtements de pluie, qui étaient plutôt hydrophobes, ne laissaient pas sortir la transpiration, la vapeur d'eau. Donc, c'était pas très agréable à porter. Bien sûr, on n'était pas mouillé de l'extérieur, mais on était très mouillé à l'intérieur.
On est peu nombreux, profitez-en.
Oui, oui. J'ai pas besoin du micro, parce que ça fait du bruit. Ah, c'est pour l'enregistrement, oui. D'accord. Bon, ok. Et donc, la comparaison avec le lotus ou les poireaux que j'ai nettoyés ce soir, qu'est-ce que ça a à voir, l'état de surface avec les nanoparticules? Le poireau, il est recouvert de nanoparticules ou c'est vraiment un autre phénomène?
Non, c'est une surface nanostructurée.
D'accord.
Là, je n'ai peut-être pas incité sur ce type de surface. On aura des nanoparticules, mais elles font partie intégrante de la surface. Elles ne se séparent pas facilement, sauf à la détruire, cette surface-là. Et lorsqu'on fait une surface nanostructurée, on va la transformer. On fait des réactions chimiques de surface et on va la transformer de façon à créer des petits îlots. Et c'est ces petits îlots qui vont rendre la surface super hydrophobe, par exemple, et les molécules d'eau vont pouvoir, enfin les gouttes d'eau plutôt, vont pouvoir rouler dessus sans s'attacher, sans s'étaler.
Ça, c'est ce qu'on fabrique, quoi.
C'est ce qu'on fabrique et c'est ce qu'on observe aussi. Mais ça, c'était connu. Vous prenez un ruban de téflon utilisé pour faire de la plomberie, par exemple, pour réparer une fuite. Regardez votre ruban de téflon, vous verrez, c'est une bonne surface hydrophobe. Elle n'est peut-être pas tout à fait super hydrophobe, mais elle est déjà bien hydrophobe. Vous déposez une toute petite goutte d'eau avec une petite pipette par-dessus et vous regardez la forme.
On n'a pas copié sur la nature, quoi, alors. On a inventé.
On a essayé de comprendre comment se faisait une surface super hydrophobe à partir d'objets naturels. Et là, bon, je ne rentre pas dans le détail, il y a différents modèles suivant le type de surface que l'on a.
D'accord, ok. Merci.
D'autres questions ? Ou alors on passe à l'aspect éthique avec la vidéo ?
Oui, j'avais oublié de mettre une petite vidéo sur le sable magique. Voilà, ça c'est du sable ordinaire, vous en avez tous utilisé. Et lorsqu'on va mettre du sable ordinaire dans de l'eau, vous savez ce qui se passe, l'expérience est très facile à faire. Et maintenant, on va refaire la même expérience. Alors bon, on a l'eau s'absorbe très facilement à la surface du sable, et si j'essaye de séparer l'eau du sable, ça va être difficile. Si j'essaye de le faire couler, le tout coule ensemble. On va répéter la même expérience. Alors, il faut que je revienne en arrière, ici. J'avais pris le 2. Voilà, ça, le sable est coloré en bleu, c'est tout. Et ça, c'est du sable qui a été rendu super hydrophobe. Regardez ce qui se passe lorsque je le mets dans de l'eau. L'eau ne veut pas s'absorber à la surface. Donc ça reste bien compact et ça présente des propriétés complètement différentes. Et si vous faites couler l'eau, vous allez garder le sable hydrophobe et le sable est sec. Tout de suite. Donc ça vous montre bien ses propriétés. Alors maintenant, les questions d'éthique. C'est là. Alors, c'est assez long, ça dure, je vois, de l'ordre de 13 minutes, parce qu'ils ont rajouté un certain nombre.
Les nanoparticules sont anciennes, en fait. Il y en a depuis... Alors, je dirais, on les faisait sans le savoir à l'époque. Il y en a même dans des verres romains, dans des vases Renaissance. Le noir de carbone, qui date du début du XXe siècle, c'est des nanoparticules. Ce qu'il y a de nouveau, par contre, c'est qu'actuellement, on comprend mieux leur fonctionnement et on les fait volontairement pour améliorer des produits. Donc, ce qui a changé, c'est leur diversité. Il y en a de plus en plus, et puis leur utilisation sur le marché. Et on manque effectivement de recul par rapport à des produits chimiques plus anciens. Il y a effectivement besoin de mieux caractériser leur danger.
Dans la mesure où maintenant on sait qu'il y a des effets toxiques potentiels et nocifs pour la santé, on a un devoir. Une fois qu'on a la connaissance du danger par le principe de précaution, on a un devoir de tout mettre en œuvre pour éviter la diffusion des nanoparticules et en tout cas pour accélérer l'étude de leur toxicité. C'est une exigence fondamentale de savoir exactement, dès la conception, quelle est la fin de vie des nanoparticules.
On peut retracer la vie fictive d'un nanotube de carbone. Donc, sa naissance actuellement se passe dans un gros réacteur. Hein. C'est un appareil où on fait réagir donc, des molécules qui contiennent du carbone, on les décompose. Donc, ce nanotube se forme naturellement. Les atomes de carbone s'assemblent donc, et se tricotent dans une espèce de chaussette, comme ça, ce nanotube. Donc, dans un deuxième temps, ce nanotube de carbone est mélangé, par exemple, avec une matrice polymère, c'est-à-dire une matière plastique, un peu comme du béton armé, si vous voulez. Hein, les nanotubes confèrent des propriétés mécaniques intéressantes, donc pour renforcer différentes matières plastiques, hein, par exemple un cadre de bicyclette. Donc, après l'utilisation normale de ce produit, vous pouvez imaginer un cycle où ces matériaux sont donc récupérés, retraités pour fabriquer de la matière neuve, ou alors ce matériau finit dans une décharge, et est assimilé à plus ou moins long terme dans l'environnement. Donc effectivement, dans le cas des nanotubes, par exemple, c'est une question qui se pose actuellement. Que deviendraient ces matériaux en décharge ?
Le problème avec les nanoparticules, c'est qu'il y en a déjà beaucoup qui sont diffusés dans des produits commerciaux, ciment, cosmétiques, etc. Et qu'il est très difficile d'avoir accès aux informations des industriels. Je veux dire qu'il y a une volonté politique aujourd'hui disons d'appliquer le principe de précaution, mais il est très très difficile. Les compagnies industrielles ne donnent pas toujours les informations qui permettraient de poursuivre les recherches de manière collective.
Alors, si on veut élargir la question, je veux dire, il y a un nouveau domaine qui émerge qu'on appelle la nanomédecine. Alors, l'exemple le plus connu, qui fait l'objet de plus de recherches, mais ce n'est pas le seul, c'est le cancer actuellement. On cherche des nanoparticules qui vont s'agglutiner sur une tumeur maligne et essaie de la détruire.
C'est vrai que cette idée de contrôle, on amène précisément sur la tumeur, on évite les effets secondaires, etc. C'est très, très enthousiasmant. Mais en même temps, on ne sait toujours rien quand même sur leur devenir dans l'organisme après. Et en particulier, un organisme vivant, c'est une somme de nanomachines, c'est un système d'un tas de nanomachines, et les interactions avec le vivant, au-delà de l'interaction intentionnelle et voulue, sont encore pas très bien connues.
Quand vous voulez vendre un cosmétique, en général, vous vendez un produit actif qui pénètre dans la peau. Donc ces produits actifs, ben, soit c'est une molécule, soit c'est un assemblage de molécules qui fait une nanoparticule. Que deviennent ces particules? Pénètrent-elles dans le corps? Donc il y a des travaux qui ont été faits dans un projet européen qui s'appelle Nanoderm pour essayer justement de caractériser leur pénétration dans la peau. Bon, a priori, les résultats montrent que ça ne rentre plutôt pas. Bon, mais il y a toujours des questionnements, qu'est-ce qui se passe quand on est blessé, lorsqu'on a de l'eczéma, des questions de ce type-là.
La toxicologie et les études environnementales des nanoparticules, c'est un champ de recherche en soi, qui n'est pas séparé d'ailleurs, à mon avis, du développement des nanoparticules. D'abord parce qu'ils le conditionnent, et en même temps parce qu'on peut apprendre beaucoup sur le comportement des nanoparticules de recherche à visée de protection. Donc, c'est pas de l'argent foutu en l'air, si je peux dire. C'est une convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives.
Je ne vois pas de menace intrinsèque à la convergence de plusieurs techniques. Par contre, il y a des questionnements qui se posent quant à leur utilisation. Donc, le premier questionnement qui existe, par exemple, c'est sur les systèmes d'information, hein, qui sont de plus en plus petits. Est-ce qu'il n'y aura pas des petites poussières communicantes qui vont transmettre des informations à notre insu? Donc c'est le genre de question qui se pose. La deuxième question, c'est relatif donc à à la nanomédecine. Donc c'est quelque chose qui a vraiment des avantages potentiels très importants pour guérir des maladies. Mais vous pouvez dire aussi ça donne accès à des analyses médicales en routine. Donc on peut avoir des renseignements sur l'ADN de quelqu'un, éventuellement à son insu finalement, si on prend un petit bout de raclure d'ongle ou quelque chose. On pourrait savoir s'il a des prédispositions à telle ou telle maladie. Et ça pourrait avoir un impact, je ne sais pas, quand on recherche un emploi ou une police d'assurance ou différentes choses, de voir un conjoint, hein, ça pourrait avoir un impact. Donc ça pose des questions, mais c'est des questions plus générales, hein, sur les questions d'éthique qui sont liées à la médecine en général.
La biologie est inspirée du modèle du programme, déjà, de l'informatique. Le cerveau est comparé souvent à un grand ordinateur. Donc déjà, au niveau métaphorique, il y avait une convergence au niveau des modèles d'interprétation de la nature. Mais il y a aussi une convergence dans les recherches sur l'intelligence artificielle qui vont dans le même sens et qui, elles, du coup, se branchent sur les sciences cognitives car cela passe par l'étude, justement, des mécanismes de connaissance, de perception pour des finalités souvent techniques, pour faire des bras artificiels, des implants cochléaires ou des rétines artificielles, etc.
On parle par exemple d'implants cérébraux, hein, pour guérir certaines maladies. Ça se fait déjà pour la maladie de Parkinson, par exemple. On l'envisage pour restaurer certains sens comme la vision ou améliorer le sort des tétraplégiques. Hein. Ce sont des travaux qui sont en cours. La question qui se pose à moyen et long terme, c'est est-ce que ces travaux qui visent à soigner des maladies ne pourraient pas un jour être utilisés pour améliorer l'être humain ? Je parlais du cas de l'amiante. L'amiante, c'est un produit qui avait été jugé donc très intéressant ou révolutionnaire, hein, il y a au début du siècle dernier, hein, pour ses propriétés anti-feu notamment. Et on a mis très longtemps à l'interdire. On s'est rendu compte relativement vite que ça avait posé des problèmes de santé, mais on a agi assez lentement en fait pour l'interdire. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore interdit dans tous les pays du monde. Donc la leçon qu'on tire de l'amiante, d'abord, c'est un nanomatériau, donc ça montre qu'il y a des cas quand même. Les nanomatériaux peuvent être dangereux, hein, comme les produits chimiques. Et deuxièmement, ça montre que s'il est dangereux, je veux dire, la réaction n'est pas forcément instantanée.
Une chose qui est assez frappante, c'est que les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Enfin, on l'a vu sur le cas des OGM qui est criant, les experts eux-mêmes ont des avis partagés et des avis contradictoires. Et donc, quand on perçoit des avis contradictoires, d'où l'importance des expertises pluralistes qu'il faut vraiment favoriser. Là, c'est affaire de jugement.
Il y a des agences qui régulent, mais ce n'est pas spécial nanotechnologie. Je ne trouve pas ça très sain d'isoler les nanomatériaux des autres parce que la question est globale, en fait. Hein. Donc, vous avez des différentes agences de régulation, vous avez des réglementations, d'ailleurs, sur les cosmétiques, sur l'alimentation. Donc, d'une part, des agences. Et d'autre part, vous avez des organismes qui font de la recherche. Donc, vous avez l'INRIS, l'INRS, des équipes du CNRS, du CEA. Beaucoup de gens font de la recherche maintenant sur la toxicité des nanomatériaux et les risques associés.
L'opinion publique est beaucoup plus exigeante désormais à l'égard des orientations scientifiques et techniques et des choix technologiques. Donc, il y a déjà une volonté. Il y a aussi maintenant beaucoup d'ONG qui sont vraiment des relais très très importants, des mouvements d'opinion. Il y a une volonté politique aux États-Unis comme en Europe d'accompagner le développement des nanotechnologies dès l'amont par une réflexion sur les enjeux et les impacts éthiques, sociaux, légaux, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup d'initiatives et les moyens de développer ces initiatives.
Par rapport aux dérives qui pourront éventuellement découler du développement des nanotechnologies, quelles sont les prérogatives et surtout les limites d'un organisme international à l'instar de l'UNESCO ?
C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler le nanojury. Ça consiste à rassembler un certain nombre de personnes qui n'ont aucune idée préconçue sur les nanotechnologies, d'ailleurs qu'à la limite qui ne savent pas ce que c'est, et qu'on forme.
Ce qu'on sait d'un problème sanitaire lié aux nanotechnologies qui est l'existence de nanoparticules.
Alors, il faut les former avec des gens aussi neutres que possible pour pas qu'on vise qu'on les biaise à la formation.
Donc bien se méfier d'une chose, c'est que le scientifique qui parle est souvent le défenseur des techniques qu'il produit.
Si, en Europe, on décide, par exemple, un moratoire sur les nanotechnologies, ça veut dire très concrètement que dans 10 ans, on n'existe plus dans ce domaine au niveau international.
Économie.
Il y a un protocole très, très codifié. Pendant 3 week-ends, un panel de citoyens se réunit pour acquérir les connaissances de base auprès d'experts qui vont leur permettre de faire le tour d'une question. Un panel citoyen, c'est toujours sur une question très ciblée.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des puces RFID qui permettent de tracer un peu ce qu'on fait, ce qu'on est, où est-ce qu'on achète.
À l'issue de ces 3 week-ends de préparation, on réunit la conférence de citoyens. Ils ont décidé d'interpeller devant le public des industries des cosmétiques, des militaires, des industriels, des scientifiques, etc.
Ils ne posent aucun problème pour le public.
Mais ça, c'est très bien. Mais pourquoi avoir enlevé donc nanoparticules des étiquettes si tout va bien?
Je comprends parfaitement votre question. Le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas exactement quelle était cette étiquette qui a été enlevée.
Au terme de cette conférence, ils rédigent des préconisations, des recommandations. Que deviendront ces milliers de nanomachines quand elles seront diffusées dans la société? Et surtout, comment nous, humains, nous nous comporterons vis-à-vis de ces nanomachines? On est encore plus imprévisible. Comment les générations d'après, qui seront nées avec ces prothèses, etc., se comporteront? Donc on est dans un climat d'absolue d'incertitude. Et là, l'approche coût-bénéfice, l'approche gestion des risques est quelque chose qui est totalement dépassé. Il s'agit vraiment d'approcher avec une vision longue durée, de se demander quelle est la portée culturelle des nanotechnologies. Il n'y a pas que les nanotechnologies, mais tout ce complexe NPIC, c'est en train de changer profondément notre comportement d'humain, notre condition propre d'humain, notre rapport à la nature, notre rapport aux techniques. C'est quand même la première fois avec les biotechnologies et les nanotechnologies que les techniques permettent de se changer nous-mêmes plutôt que l'environnement. Tout ce qui est techniquement possible est-il éthiquement désirable? C'est la question qu'on doit tous se poser.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des problèmes de santé, des problèmes éthiques concernant non seulement les nanomatériaux, les nanoparticules, mais aussi les nanomachines? Et il y a, dans cette vidéo, je trouve qu'il y avait un peu une confusion entre les deux. Ce n'est pas très bien défini, ni d'un côté, ni de l'autre. Et je pense qu'il faut être très clair au niveau des définitions. C'est ce que j'ai déjà dit auparavant. Pas de remarques particulières.
Des réflexions, soit par rapport à la vidéo, soit, je ne sais pas, c'est des choses que vous suivez dans l'actualité, ou je sais pas, il y a des publics composites de personnes, des étudiants, bon. Des personnes.
La vidéo est intéressante, mais je la trouve quand même un peu longue. C'est purement personnel. C'est la vidéo extraite du DVD du CNRS qui fait à peu près 3 heures avec toutes les interventions. Donc j'en ai extraite 2 qui sont les plus pertinentes pour parler des nanomatériaux. Les nanotechnologies, les nanomachines, c'est encore autre chose. En nanomatériaux, j'ai parlé des particules d'or, il y a les particules d'argent. Alors, il paraît qu'on en met dans les chaussettes pour les gens qui transpirent et qui ont des problèmes à ce niveau-là, parce que les nanoparticules d'argent ont des propriétés bactéricides. Mais ça, je crois que c'est quand même connu depuis beaucoup plus longtemps que le concept de nanomatériaux et de nanotechnologie. Alors bon, il y a un débat qui a été ouvert, qui a été contrecarré dans certains endroits. J'ai commencé à lire un gros pavé qui s'appelle aujourd'hui le Nanomonde, qui vient de l'organisation Pièces et Main d'œuvre, qui avait perturbé les expositions et les conférences à Grenoble et à Paris. D'autres ont été annulés. Bon, il y a des idées intéressantes à ce niveau-là. Mais pour moi, ça ne se place pas spécifiquement au niveau des nanotechnologies, mais c'est au niveau de la technologie elle-même. C'est-à-dire que l'éthique du développement technologique, l'éthique du progrès. Est-ce qu'à un moment donné, on doit dire stop? Et qui doit dire stop? Ou est-ce que le progrès, c'est un phénomène anthropique qu'on constate depuis que l'humanité s'est développée et qui continuera à se développer avec ses défauts et ses qualités? Et que quoi qu'on fasse, ça continuera à se développer. On peut le freiner à certains endroits, ou alors essayer de prendre des réglementations basées sur des études. Le gros problème, c'est que lorsqu'on développe de nouveaux nanomatériaux, on investit un certain budget. Quelle part de ce budget on doit investir en parallèle pour étudier la toxicité et tous les problèmes éthiques qui concernent ces nanoparticules, ces nouvelles nanoparticules. Alors on parle beaucoup des nanotubes de carbone, on en trouve dans les pneus parce que ça augmente la résistance mécanique des pneus. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des pneus une fois qu'on ne les utilise plus sur sa voiture ? Quel est le devenir de ces pneus? Est-ce qu'on les... en général, les garagistes les reprennent. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on peut récupérer une partie de la matière qui a été élaborée pour les construire? Le débat est ouvert. Mais il durera encore plusieurs années, à mon avis.
Attends, j'arrive.
Je crois que ça, c'est l'éternelle discussion. Tout à l'heure, tu as montré l'intervention, je ne sais pas si tu as fait gaffe, de Elie Farouk. C'est Elie Farouk, qui est quelqu'un qui vient souvent ici, qui a dit si on stérilise le truc, eh ben, si ce n'est pas nous qui le font, ça va se faire ailleurs.
Oui.
Et je crois que ça, c'est vrai. Et ça, c'est le principe même du principe de précaution. Alors, pour certains, le principe de précaution, c'est ça risque d'être dangereux, on arrête tout. Et ce n'est pas ça, le principe de précaution. Non. C'est essayer tout de suite de mesurer quels sont les risques qui sont liés à cette nouvelle technologie. Mais pour certains, et notamment il y a des activistes du principe de précaution qui disent « Ah non, c'est dangereux, ça peut être dangereux, donc on arrête tout. » Et c'est là qu'il faut trouver le point d'équilibre entre « on arrête tout » ou au contraire, on continue à faire des études. Et c'est vrai, et je crois malheureusement que les dangers de ces nanoparticules, on ne peut pas les connaître tout de suite, c'est dans quelques années, c'est comme le cas de l'amiante. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra réagir plus vite que ce qu'on a fait pour l'amiante, parce que pour l'amiante, ça faisait très longtemps qu'on savait que c'était toxique. On avait arrêté ça depuis très longtemps, mais les lourdeurs politiques, les lenteurs, en disant « ouais, mais ça rapporte de l'argent », regardez l'histoire du médiateur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté le médiateur? Parce que tout compte fait, il y avait je ne sais pas combien de personnes qui travaillaient là-dessus, ça mettait en péril l'industrie pharmaceutique. Bon, alors il faut essayer d'éviter ces dérives-là. Mais si on suit d'une façon active et non pas sectaire les développements en disant « bon, bah, attention, dès qu'il y a quelque chose, on intervient », je crois que ça vaut le coup de tenter. Mais il faut vraiment que ce soit mis en place. Ça, c'est mon opinion.
Ces nanoparticules, ça paraît un peu bizarre, mais là, vous avez parlé de l'amiante. Moi, ce que j'ai peur avec tous ces nouveaux produits, déjà, j'ai du mal à comprendre comment on arrive à mettre des nanoparticules, comment on arrive à vraiment les faire pour mettre dans les pneus, pour mettre dans les chaussettes, enfin ça. Bon. Mais vous avez parlé de l'amiante. Depuis 1918 ou 19, on sait que c'est cancérigène. On a attendu 90 ans, parce que vous avez dit qu'il y avait des gros intérêts. Et ce que j'ai peur, moi, c'est qu'il va y avoir tellement d'intérêts qu'on va attendre X morts comme le médiateur, et puis qu'on va décorer les gens de la Légion d'honneur, parce que, en principe, les gens qui tuent beaucoup d'autres, on les décore de la Légion d'honneur. C'est pour ça que je n'aurai jamais la Légion d'honneur. Et il y a tellement d'enjeux en jeu que c'est normal qu'on soit très réticent et puis qu'il y ait des gens qui poussent. Et je sais qu'il y en a d'autres qui le feront, mais je crois que l'homme est comme ça et l'argent dirige tout et je trouve que ça va trop vite maintenant.
Une autre opinion ?
Vous avez tout à fait raison, c'est vrai ce que vous dites. Mais je vous rappelle, il y avait un copain qui nous racontait que quand les chemins de fer ont été mis en place, on avait dit qu'il faut arrêter les chemins de fer parce que les vaches vont accoucher, ça va être terrible, elles vont plus avoir de petits, ça va être... Bon, et puis voilà. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas des dangers au chemin de fer. Mais enfin, il y a quand même eu un certain nombre de progrès. C'est pour ça que je vous dis, il faut être très nuancé, mais il faut être vigilant, mais après avoir tenté l'expérience. Moi, ça, c'est mon opinion.
Alors, je reviens à ce que je disais. Ça concerne les composés chimiques. Au niveau européen, on a développé le système qu'on appelle REACH pour contrôler les produits chimiques qui sont mis sur le marché et pour avoir des études de toxicité fiables, ce qui se fait maintenant. Et je me souviens avoir lu dans des revues américaines qu'à la limite, ils se réjouissaient, les industriels américains, que l'Union européenne mette au point ce système-là parce que ça allait freiner les industriels chimiques européens. Ça, on le lisait dans les revues américaines. Et qui, ils sont derrière nous à ce niveau-là. Je pense que si on fait très attention à ce niveau-là, on y gagnera vis-à-vis des Américains ou d'autres pays émergents qui font beaucoup moins attention. Parce qu'on sera capable de dire, voilà ce qu'on met sur le marché, on a fait des études de toxicité, aucun produit chimique, mais on peut le qualifier de non toxique. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut savoir à quels sont ces seuils de toxicité, quels sont ces dangers, de la manière la plus précise possible. Avoir des contrôles qui soient bien définis. À partir de ce moment-là, on est capable de définir des conditions d'utilisation précises. On ne va pas rejeter tous les composés chimiques, mais on saura comment les manipuler, comment les stocker, comment les utiliser. Alors, en ce qui concerne les nanomatériaux, au niveau européen, on se pose la question, mais la question est beaucoup plus complexe parce qu'il y a au départ la définition des nanomatériaux, des nanoparticules. J'ai donné comme définition une dimension entre 1 et 100 nanomètres, mais c'est certain que si ça fait 200 nanomètres ou 300 nanomètres, on va rentrer dans la même catégorie. Deuxièmement, la forme va jouer énormément. Dans le cas de l'amiante, c'est la forme de ses fibres qui joue aussi. Si on a des particules qui sont sous forme de sphères ou de petits grains, elles n'auront pas le même impact. Il va falloir étudier cet impact-là aussi. Donc, il faut accepter de consacrer un budget plus que conséquent pour toutes ces études de toxicité. Sur le court terme, on est capable de le faire. Mais après, sur le long terme, ça, c'était le gros problème de l'amiante. Les problèmes de développement de cancer, ça ne se produisait pas un an après, ça se produit 20 ans après. Et donc, ça... On s'en est rendu compte, c'est certain qu'en France, la législation n'a pas suivi pour interdire l'utilisation de l'amiante. Et notamment, par exemple, pour les toitures en Ethernet, c'est ça. C'est à base d'amiante. On disait, mais c'est dehors, il pleut dessus. Lorsque les résidus ont été lavés, ça ne va pas poser de gros problèmes sur ma maison. J'ai encore une partie de la toiture qui est... En Ethernet, j'ai posé la question, on m'a dit, ben si, ce serait bien une fois de la changer, mais elle y est depuis que la maison a été construite, c'est-à-dire avant que j'arrive.
Oui, et pour cette histoire d'amiante, il y a un témoin qui est à côté de moi, puisqu'on travaillait dans le même labo,
oui.
On avait énormément d'amiante dans le labo, autour des fours, et puis je me souviens, on tripotait ça.
Je sais.
Et quand on filtrait sur l'amiante,
oui.
On prenait l'amiante à la main, on la mettait comme ça dans le fond.
Et pourtant, on aurait pu le savoir, puisque déjà à l'époque, moi, je ne savais pas ça.
Ben, moi aussi, j'ai utilisé, on avait des plaques d'amiante. Tous les souffleurs de verre utilisaient des plaques d'amiante pour poser leurs objets en verre, parce que ça avait de très bonnes qualités au point de vue isolant thermique.
Les freins des voitures
aussi. Alors, tout le monde a respiré de l'amiante. Il y a le même problème avec le plomb. Depuis 20 ans, on a enlevé le plomb dans l'essence. Le plomb a été mis dans les années 20 dans l'essence. On a pollué toute la planète avec du plomb. Et on sait que ça a un impact. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les CFC, les chlorofluorocarbones. On les a développés dans les années 40-50. On s'est rendu compte, c'est un composé qui va permettre de remplacer des solvants organiques qui sont très toxiques, exemple le benzène, pour faire du nettoyage, du dégraissage de tôle, par exemple. On va utiliser ces solvants-là. On a fait des études de toxicologie, c'est merveilleux, ils ne sont pas toxiques. Ils ne sont pas toxiques. Vous pouvez travailler avec des CFC, vous ne risquez rien. Si vous travaillez avec du benzène, au niveau industriel, vous risquez. Malheureusement, dans les années, fin des années 70, années 80, on s'est aperçu que ça a créé un problème en diminuant un peu la concentration d'ozone dans l'atmosphère supérieure. Alors, combien 30 à 50 km d'altitude. Et que ça avait un impact. Alors, que faire ? C'était lié à la trop grande stabilité de cette molécule. Elle était très stable, donc ne posait pas de problème de toxicité. Si on en respirait, on la rejetait comme on l'avait respirée, elle ne se transformait pas. Mais étant trop stable, elle montait dans l'atmosphère, elle se cassait suite au rayonnement, ça donnait des atomes de chlore, et ça diminuait la concentration en molécules d'ozone. Alors, on a fait une grosse conférence à Montréal, on était à la fin des années 80, et on a décidé de diminuer progressivement l'utilisation de ces CFC. Et c'est ce que l'on fait, et de trouver des substituts. Mais alors, avec ces substituts, on recommence le cycle. C'est-à-dire qu'il faut étudier tout l'aspect toxicologique. Bon, c'est des composés où on a remplacé le chlore par de l'hydrogène, donc apparemment, ils ne sont pas plus toxiques, ou ils ont une toxicité très faible, comme les CFC, mais ils ont une durée de vie plus petite, ce qui évite d'avoir des problèmes avec la couche d'ozone. Et puis, on a enlevé le chlore, surtout. Donc, ça, c'est un exemple qui est récent, où on estimait avoir résolu un gros problème de solvant organique, qui, lui, est un problème qui existe toujours. Il y a beaucoup d'industriels qui utilisent en chimie du benzène comme solvant ou des dérivés du benzène qui sont cancérigènes. Mais moi, je me souviens avoir préparé le CAPES dans les années 60. Il y avait un montage qui était consacré au benzène. On prenait une petite coupelle, on mettait du benzène et on l'enflammait pour montrer que ça brûlait en formant beaucoup de noir de fumée. Et personne ne nous a jamais dit, lorsque j'ai passé le CAPES, attention, c'est extrêmement dangereux. C'était marqué nulle part, ça. C'était les expériences qu'il fallait faire. Donc, c'est bien d'évoluer et d'avoir une législation qui permette de mieux cerner les problèmes. Alors, la question, c'est de pouvoir distinguer entre les problèmes majeurs et les problèmes mineurs. Et ça, c'est très difficile.
Alors, entre les problèmes majeurs et mineurs, moi, j'ai regardé une émission à la télé, c'était hier soir, sur les problèmes de la Terre. Et c'est extrêmement intéressant, c'était l'utilisation de tout ce qui est dans le domaine phytosanitaire, ce qu'on peut faire sur le blé, et regarder ce que ça donnait sur les farines, etc. Alors, il y avait une analyse qui était intéressante, et puis ils ont analysé ce qui se passait dans le pain. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un produit qui revenait très fréquemment, manque de peau, les agriculteurs n'avaient jamais mis dessus. En réalité, ce n'était pas les agriculteurs, c'était qu'ensuite, pour stocker le blé dans les silos, il fallait mettre ce produit pour éviter que ça s'abîme. Et quand on faisait les analyses, on s'apercevait qu'il y avait très peu de différence entre le blé qui avait été cultivé écologiquement et les autres, parce qu'on ne trouvait que des traces vraiment de ces produits insecticides qui avaient été mis sur les champs en culture traditionnelle, disons. Là, la différence était tout à fait minime. Par contre, ceux qui avaient été stockés dans les silos, qu'ils soient écolos ou qu'ils ne soient pas écolos, il y en avait partout autant, et c'était ça qui était très toxique. Donc, quelquefois, il faut faire gaffe, on est à côté de la plaque. Si vous n'avez plus de questions à poser, on va arrêter parce qu'on a des impératifs d'horaire, mais si vous avez des questions à poser, allez-y. Non ? Eh bien, Charles, nous te remercions. C'était très intéressant et bravo.